L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Deloume, l'instant addicto. J'ai le plaisir de retrouver Émilie Gauvin, infirmière en addictologie, et Jean-Philippe Toula, qui sont tous les deux salariés de la Gondillonnerie, le bon vieux centre de cure qui date de fin des années 90 dans le sud de Vienne, à Pérou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc pour notre troisième rencontre, je pense qu'on avait envie de reparler un peu de l'entrée et de la sortie quand on fait environ 3 mois de centre, c'est pas rien, puis qu'on abordera aussi au niveau, si on a le temps, au niveau de l'entourage, de l'environnement, c'est très important pour ceux qui viennent faire une cure, comme on dit, Émilie et Jean-Philippe. Bon, oui, on va pas faire une cure comme ça parce que le médecin en a parlé, parce que, ok, on a une injonction aux soins, mais c'est aussi une perche à attraper quand on a une injonction aux soins. Mais voilà, on vient pas faire un petit tour comme ça à Pérou parce que c'est la campagne, c'est agréable à vivre. Mais voilà, on sait qu'il y a 3 mois, il y a un contrat à signer, Jean-Philippe. Il y a un contrat à signer et je pense qu'il y a tout ce sens à mettre. Moi, je dis souvent, c'est pas facile pour les patients de se dire c'est un temps de retraite aussi. Mm-hmm. Pas un temps où on va vous flageller ou autre. C'est vraiment un de, comme on disait, de reconstruction, de prendre soin de soi. On a affaire à des patients qui n'ont jamais pris soin d'eux. Il y a toujours eu cette violence du produit, une violence de l'environnement et des traumas qu'ont pu être rencontrés. Mais voilà, ce temps de retraite, de retour sur soi, je pense que ça fait pas toujours partie de notre culture.
Tout à fait. En effet, c'est vraiment prendre le temps, un temps d'introspection, vraiment réfléchir sur ce qu'on a envie de faire de sa vie, sur ce qu'on veut faire avec les produits. Est-ce qu'on veut continuer à consommer de façon contrôlée? Est-ce qu'on va être abstinent, vraiment prendre le temps de réfléchir. On part pas en soins comme ça. Alors, mis à part une hospitalisation d'urgence, parce que il y a overdose, il y a une alcoolisation aiguë massive qui nous amène aux urgences et c'est à ce moment-là que les soins peuvent être envisagés. Mais on n'arrive pas à la Gondillonnerie comme ça.
Il y a pas de hasard.
C'est quelque chose qui se prépare en amont, mais c'est quelque chose de réfléchi de venir faire ce qu'on appelait avant les post-cures. Moi, à la Gondillonnerie,
c'est bien de casser cette image, parce que moi, quand j'entends des patients, ils sont encore dans leur croyance. C'est normal, il y a cette étape-là. Mais de se dire, je vais voir personne, je vais être enfermé. Des patients qui sont dans l'ambivalence, c'est difficile pour eux de quitter le produit, parce qu'ils sont dans une routine, ils sont dans leur quotidien, et d'aller à la Gondillonnerie, ils savent que, voilà, quel manque il y aura, comment je peux choisir une nouvelle vie, comment je peux reconstruire une nouvelle vie. Je pense qu'il y a tout cet enjeu.
Et 3 mois sur une vie de conso. Franchement,
c'est pas grand chose.
On consomme depuis 10, 15, 20 ans, 3 mois, c'est quoi au pire? C'est quoi d'essayer 3 mois d'être abstinent? Parce que bon, alors on demande quand même si je parlais de gestion des consos, on demande quand même aux patients pendant les 3 mois de ne pas consommer, que ce soit centre ou en permission. Mmh. Au pire, voilà, c'est quoi 3 mois, essayer de voir ce que ça fait de ne pas consommer?
Bon, on a déjà du mal avec le Dry January, c'est encore une autre histoire avec notre gouvernement. On a du mal à faire 1 mois d'abstinence en France. Bon, après, par rapport à l'alcool, puisqu'on est un pays alcoolier, donc c'est compliqué.
Peur.
Bien sûr que ça fait peur.
Ça peut faire peur simplement. Ouais, bon. Si les futurs patients qui nous écoutent peut-être peuvent pour démystifier un petit peu toutes ces idées préconçues ou ces préjugés, se renseigner, venir voir, passer.
Appeler, prendre rendez-vous, venez.
Prendre rendez-vous. Et puis peut-être. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les patients sont très bons conseillers pour les autres. Ils sont super conseillers. Ouais. Ce serait quelqu'un de leur famille qui serait en souffrance, un fils, une femme. Qu'est-ce qu'ils pourraient leur dire? Ils leur diraient, mais va te soigner. Comme disait Émilie, c'est quoi 3 mois? C'est rien. Et souvent, il suffit de se regarder dans le miroir pour avoir les vraies solutions. Se dire, oui, tout compte fait, c'est pas grand-chose. 3 mois pour aller bien, 3 mois pour rompre avec tous ces démons, c'est pas grand-chose. Et il suffit souvent de s'écouter. Les solutions, on le disait et on le répète, elles sont pas en nous. Nous, on est des outils, des instruments.
Des accompagnants.
Dans les patients. Oui. Les patients qu'on accueille ont déjà toutes les solutions. Ils ont plus de compétences que nous dans certains domaines. Il suffit qu'ils arrivent à s'écouter un petit peu, qu'ils se replacent une fois de plus, comme je le disais, au centre, et dire... Moi, j'ai plus envie. Et puis, à ce moment-là, peut-être qu'ils pourront enclencher des démarches de soins. Mais il s'agit, comme on le disait tout à l'heure, de se renseigner, de préparer. On part pas en voyage sans faire ses valises.
Exactement. Et je pense que c'est bien de le redire en tant que praticienne en addicto. Oui, c'est quelque chose que j'encourage vraiment de prendre par la main le patient ou avec sa famille ou d'accompagner et de venir rencontrer l'équipe, de se familiariser, d'avoir moins peur, de baisser cette peur et de se dire que ça vaut la peine de passer à autre chose dans sa vie.
Et on invite aussi quand même les autres professionnels de santé. Alors, je sais que les médecins traitants, ils ont pas le temps. Mais ça peut être aussi l'infirmière libérale, venir voir comment ça se passe. Il faut 2-3 heures quand même pour faire la visite. Mais c'est aussi des acteurs qui sont auprès de nos patients à la maison et qui peuvent aussi les accompagner vers les soins.
Je pense que ça renvoie quand même à la place des addictions maintenant. Elles sont beaucoup moins stigmatisantes qu'avant, mais elles sont encore un petit peu trop banalisées. C'est un regard que je peux avoir. Moi, j'ai encore entendu un médecin traitant me dire « Oui, le patient manque de volonté ». Donc je pense, on est revenu 30 ans en arrière, ça fait un peu bizarre. Mais je pense pense, voilà, il y a aussi ce travail, même avec, vous êtes professionnel de santé, j'y participe aussi à ma façon, mais je pense qu'il y a encore un travail encore à faire, ouais. Voilà, c'est toujours mieux pour évoluer, de se dire non, ce n'est pas une question de volonté. L'addictologie est née il y a 30 ans d'arrière, il y a une très très longue histoire, la grandillonnerie a suivi aussi toute cette histoire-là, voilà, c'est pas qu'une question de volonté.
Mais ils ont
c'est
tous
compliqué.
La volonté, nos patients, ils ont tous envie, enfin, c'est...
Il y a une ambivalence à lever, alors il y en a qui, c'est compliqué, les médecins traitants le disent, il y a quand même encore un déni, et on le disait, les bénéfices du produit sont encore là.
Sûr.
Sur 30 patients au Poitou, il faut bien le dire, il y en a 10 qui sont addicts, qu'on le dise haut et fort.
Ouais.
Donc il y en aura toujours qui resteront dans les bénéfices. Il y en aura quand même d'autres, ou si on peut attraper au vol, c'est une bonne chose. Mais voilà, de rappeler, s'il n'y a pas de, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de baguette magique, et comme vous le disiez, Jean-Philippe, à juste titre, voilà, c'est comment utiliser les ressources du patient qu'il a à l'intérieur.
Tout à fait.
Comment se faire confiance, comment lui faire confiance pour qu'il puisse se reconstruire et aller mieux sans le ou les produits.
Bah oui, lui refaire confiance, puisque souvent l'entourage ne fait plus confiance. Nous, au moins, on leur fait confiance.
On va faire une petite pause musicale et on abordera l'entourage après. On écoute Nini Bonnie Banane, un titre de son dernier album.
Do do do.
écouter l'instant addicto. Donc, on retrouve Émilie Gauvin et Jean-Philippe Toula pour le centre La Gandillonnerie sur Pérou. On abordait justement au niveau du patient cette dynamique en lui pour pouvoir aller vers le soin. C'est important qu'on fasse, pour terminer, au niveau de l'environnement, c'est pas toujours simple. Il y a d'un côté, des fois, on le sait, des pressions de l'environnement. Donner un ultimatum, on sait que pour certains patients, de perdre ça et ça dans leur vie, que ça soit le permis, que ça soit une compagne, au goût de tout perdre, comme vous le disiez, Émilie. Hein. Comment on fait par rapport à cet environnement? Je peux le voir aussi en accompagnement. Enfin, c'est très complexe, hein. C'est systémique, comme on dit.
Tout à fait.
C'est dynamique familiale.
C'est compliqué pour l'entourage, hein. Entourage familial, amical, parce que certainement, ils se sentent impuissants à un moment donné. C'est compliqué pour le patient parce qu'il n'est pas entendu. Hein. Je pense que ce qui peut être important, c'est quand on est l'entourage, de se faire accompagner. Aller chercher des informations sur ce que c'est vraiment l'addiction, hein, puisque on comprend pas forcément toujours. Bah ouais, mais il me ment encore, il reconsomme en cachette. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de la maladie, c'est des symptômes de la maladie. Il a dit qu'il consommerait plus jamais. Bah oui. Mais lui, au fond, il a envie de plus consommer. Mais malheureusement, son cerveau, parfois, il en décide autrement et exactement. Il n'a pas été capable de le gérer. Donc, je pense qu'à un moment donné, oui, cet accompagnement, c'est important. Alors, les personnes font leur choix. Hein. Il y a séparation, il y a éloignement de l'entourage. Parfois aussi, ça fait du bien, hein, pour eux, c'est de se protéger. Oui. Mais vraiment, l'accompagnement, c'est très, très important pour l'entourage et le patient.
Jean-Philippe, par rapport à cet environnement, les expériences que vous avez pu avoir, est-ce que les patients qui peuvent arriver à Pérou, certains ont perdu un peu, beaucoup dans leur vie par rapport à leur environnement?
On dit que ce qui donne de la valeur aux choses, c'est quand on les perd. C'est à la fois vrai et pas vrai. Il y a des choses qu'on perd, qu'on peut retrouver, mais il y en a d'autres, c'est plus difficile. Ne pas attendre que ce soit au stade final. Des fois, c'est bien. Et ce stade final, il peut arriver par surprise. Je me rappellerai toujours d'un patient qui est parti de chez nous, qui allait bien. Et puis, au bout de 7-8 mois, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il s'était réalcoolisé massivement. Il avait déclenché une polynévrite. C'est arrivé très, très, très vite. Il était en fauteuil roulant. Ce qu'un médecin m'a expliqué, c'est que, il était à deux doigts de la déclencher. Il avait arrêté avant. Donc, il avait tout. Il s'est réalcoolisé. Très vite, la maladie s'est installée. Il était de retour, mais il avait perdu beaucoup plus qu'il avait gagné. Pour éviter, démystifier, ça veut dire aussi que c'est une maladie qui est chronique. Comme disait Émilie, on peut rechuter. Il y a la rapidité à laquelle on réenclenche des soins qui est importante. Parce qu'il ne faut pas avoir honte. C'est pas une maladie honteuse. C'est pas quelque chose de... une fatalité. Une fois de plus, la seule personne qui peut faire quelque chose dans ce cas-là, c'est le patient lui-même. On peut dire à la personne « Tu bois trop, tu devrais faire attention, t'as un comportement à risque, t'as des pratiques à risque, tu roules trop vite. » Puis il n'y a qu'au moment où la personne a l'accident ou a le problème, il dit « Ah bah oui, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. »
On dit souvent qu'il faut toucher le fond.
Ouais. Il est où le fond ?
Mais oui, chacun a son fond.
Mais oui,
chacun
il est où le fond, oui.
On sait très bien au niveau communément, c'est ce qui peut être dit, Jean-Philippe. Hein.
Mais
après,
c'est que parfois...
chacun a son fond et certains vont perdre jusqu'à la vie quand on parle à certains médecins.
Tout à fait. Mais c'est le risque. C'est le risque. Mais la particularité de l'addiction, c'est qu'ils savent qu'ils font du mal.
Mais ça continue, c'est propre d'une addiction.
Réenclencher les soins rapidement ou entrer en soins le plus vite possible. Prendre conscience. Les produits, souvent, on va dire, font perdre conscience. On n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans la réalité. Le mensonge n'a plus la même valeur. On est assez proche. Donc j'arrête. Hein. J'ai rien consommé, j'ai pas bu ou j'ai pas joué. Ça marche aussi avec les jeux. Il y a des addictions avec ou des addictions sans produits. Mais le mensonge devient une règle.
Leur réalité,
leur réalité, mais pour, je pense, ne pas faire de mal à leur entourage.
Oui, c'est une façon de se protéger.
C'est aussi pour protéger les autres. Hein. C'est pas malsain. Hein. Quand ils mentent, c'est pour protéger leur entourage. Ça doit pas être facile de dire à sa femme ou à ses enfants, j'ai recommencé.
Je pense que culpabilité,
mais complètement la honte, la culpabilité.
C'est inhérent à ces maladies.
C'est pour les protéger.
C'est intéressant aussi de se dire, quand on parlait de l'accompagnement, il y a l'accompagnement pendant la cure avec tous les ateliers, l'équipe médicale et tout. Et c'est important, quand on disait aussi, de pouvoir anticiper une entrée, de la préparer. Ouais. C'est pareil pour la sortie.
L'accompagnement
et là,
après.
Je me rends compte aussi quand même, il faut que l'accompagnement perdure pendant, avant, pendant et après. Moi, je me rends compte même dans des accompagnements en ambulatoire, s'il n'y a pas un psy ou une équipe médicale derrière, c'est one shot, comme on dit, les gens vont venir une ou deux fois, mais ça ne suit pas. Et je pense que c'est pareil pour une cure à la gandillonnerie.
Mais tout à fait.
S'il n'y a pas quelque chose de solide autour pour étayer et contenir la personne, surtout après, il n'y aura plus la cure.
Et c'est le souci, quand on va bien, ça va bien, je vais arrêter mon suivi, mais c'est le principe, ben, je prends un traitement pour une certaine pathologie, je vais bien. Donc, c'est grâce au traitement que je vais bien. Et le suivi, ça fait partie du traitement. Hein, donc, et souvent, nos patients, ils ont tendance à arrêter leur suivi trop tôt. Mais le suivi, c'est pas forcément que les professionnels de santé. Hein. On a aussi des associations, les alcooliques anonymes, Vie Libre, les narcotiques anonymes. Enfin, tout ce qui peut être associatif autour des anciens consommateurs peuvent accompagner parce qu'ils sont très présents. Hein.
De pas rester mais isolés.
Pour pouvoir aussi parler de ce problème de consommation, parce que les envies de consommer, ok, on est sevré depuis un mois, deux mois, un an, mais les envies de consommer, elles peuvent revenir n'importe quand.
Exactement.
Donc, c'est vraiment être accompagné.
Merci, Émilie Gauvin, Jean-Philippe Toula, pour toutes ces explications. À la semaine prochaine. L'instant addicto.